Dans le cadre de leur émission « Les chemins de l'histoire », Daniel et Jean Fleury vous proposent quatre émissions sur la période médiévale à Nîmes, intitulées « Du Duocento au Quattrocento ». Nous y découvrirons les prémices inspirées du modèle italien, de l'émancipation bourgeoise, de la devotia moderna et finalement de l'humanisme qui feront le lit de la réforme nîmoise. Aujourd'hui, le Quattrocento nîmois. Tandis que fleurit la Florentina Libertas, le royaume de France sort peu à peu de la guerre de Cent Ans. Et c'est toujours le compositeur Louis de Milan, né à Valence vers 1490, qui nous accompagnera de ses pavanes et sarabandes interprétées par Jordi Savall. Le Languedoc oriental, une des rares régions encore prospères, est devenue essentielle au XVe siècle pour ce pauvre royaume de France, loin des champs de bataille, et la peste étant passée, la reprise économique a fait de Nîmes une ville marchande et manufacturière importante, appuyée sur la laine et les artisanats familiaux des paysans ouvriers des Cévennes, avec, chaque été, la foire internationale de Beaucaire comme débouché commercial principal. Nîmes triple alors sa population, avec l'arrivée de travailleurs paupérisés, beaucoup venus d'Avignon, et amassés dans les arènes, les quartiers nord, en bordure de Lago, ou bien le faubourg des Prêcheurs. Plusieurs révoltes y éclatent, réprimées par l'oligarchie municipale. Ont immigré aussi des négociants ou juristes avignonnais ou lombards, des guelfes chassés par les gibelins et quelques soyeux lucquois ou juifs. Ils pratiquent le prêt avec intérêt théoriquement interdit aux catholiques et vers 1404 ont leur propre loge de commerce rue des Lombards. Il en reste quelques traces dans la cour orientale.
Nous avons vu dans les précédentes émissions que profitant à la fois d'une économie prospère et d'un pouvoir central encore lointain, un consulat oligarchique s'était constitué à Nîmes face à l'évêque. De même, à Florence, où ce Quattrocento sera à la fois le siècle le plus prestigieux de la cité, mais aussi le chant du signe d'une république qui n'en est déjà plus une sous les Albizzi et surtout, à partir de 1434, le Médicis comme l'Ancien.
Trois phénomènes conjugués y avaient pourtant nourri l'émergence d'une réelle modernité. La mise en place d'une économie proto-capitaliste et l'organisation sociale qui en découle. La modernité culturelle, exprimée par l'humanisme civique et son bon gouvernement. L'élaboration, enfin, de la Florentina Libertas, une liberté politique, souvent théorique, sous forme républicaine. C'est l'époque où naissent en Toscane toute une génération d'artistes. Brunelleschi, Luca della Robbia, Donatello, Fra Angelico, Michelozzo, Paolo Uccello.
En France, Charles VI, n'ayant que 12 ans à la mort de son père en 1380, le duc Louis d'Anjou quitte la lieutenance du Languedoc pour présider le conseil de gérance avec les autres oncles du roi. Les ducs de Berry, devenus lieutenants du Languedoc, de Bourgogne et de Bourbon. Or, tandis que Clément VII est pape à Avignon, Urban VI siège à Rome soutenu par les Gibelins et menace la reine Jeanne de Naples, duchesse de Provence, qui fait appel à Louis d'Anjou. Celle-ci quitte donc le conseil, remplacée par Philippe de Bourgogne, qui tente de calmer les révoltes.
En septembre 1389, émancipé de la tutelle de ses oncles, Charles VI part visiter le Languedoc, accompagné de son conseil et de quelques grands, dont son cousin d'Anjou et sa mère, veuve de Louis Ier depuis 1384. Il visite le pape en Avignon fin octobre, lui fait couronner roi de Sicile le jeune Louis II d'Anjou, puis entame une tournée triomphale. ce ne sont que fêtes, cadeaux, accueils protocolaires bien réglés pour ce jeune roi fastueux. Affable, il écoute les plaintes sur la gestion du duc de Berry, qui saigne la province d'impôts. À Nîmes, en novembre, il constate que les arènes sont inadaptées désormais à une défense efficace contre les grandes compagnies qui rôdent périodiquement. Ensuite, il visite Montpellier, Béziers, Carcassonne et Toulouse jusqu'en janvier. Toujours les mêmes plaintes. Son oncle de Berry sera destitué de sa lieutenance et lors de son retour en février, il nomme 3 commissaires chargés de la réformation générale des pays du Languedoc et du duché de Guyenne.
C'est ainsi qu'il donne à Nîmes un nouveau statut consulaire. Il n'y aurait plus que 4 consuls et 28 conseillers, les uns et les autres élus par le sort, sans distinction de classe. Et ceux-ci prendraient le titre de consul et conseiller de la ville de Nîmes et des faubourgs. Notons que le tirage au sort était utilisé à Florence depuis 1328. C'était en théorie l'abolition de la distinction des 3 classes qui composaient la population, mais pas du clientélisme qui présélectionnait les candidats au tirage au sort.
En 1391, le roi ordonne de mettre la ville de Nîmes en défense et qu'un château royal serait bâti près de la porte des Carmes. Il englobera les tours de l'ancienne porte d'Arles, romaine, l'actuelle porte d'Auguste, et les chevaliers des arènes abandonneront leur forteresse, donc le château des arènes, pour aller habiter ce nouveau château. Le bourguignon Regnault Boileau, nommé sénéchal de Beaucaire en 1390, doit veiller à la construction de ce gros bâtiment, flanqué de 4 tours, cerné par un fossé rempli d'eau par le canal de Lagot, qui le contournera au sud. La porte d'Arles se déplace ainsi vers le sud, en porte des Carmes.
En 1394, le roi chasse à nouveau les Juifs qui ont 45 jours pour vendre leurs biens et partir. Le sénéchal de Beaucaire reçoit l'ordre de les conduire en sûreté hors du royaume. Il leur accorde un sursis de quelques jours, mais dès le 3 novembre, de nouvelles lettres royales lui ordonnent de saisir tous les biens des Juifs, d'en dresser un état, de faire publier que ceux qui leur avaient emprunté sur gage eusent à retirer ces gages dans un mois, et enfin de veiller à la liquidation de toutes leurs dettes actives ou passives. On convertit les enfants de force et c'est l'exil en comtat vénécin. Carpentras, Ille-sur-Sorgue, Cavaillon, Avignon, des Juifs du pape, mais aussi en Lorraine, Dauphiné ou Savoie.
Cet antisémitisme rémanent n'est pas limité alors à la France, mais banalisé un peu partout en Europe, dès que des difficultés économiques ou politiques surviennent. En Toscane, si une présence juive est attestée dans les cités ghibellines, c'est seulement au XVe que des communautés apparaissent dans Florence la Guelfe, mais contre autorisation officielle. Les condottes, données par les Médicis, pour qu'ils s'établissent comme prêteurs, le seul métier qui leur est autorisé.
À Nîmes, Pierre Scatis, notre fils d'émigré lucquois, devenu seigneur de Villevieille, Bernice, Huchot et Aubord, est élu consul en 1390, mais meurt en 1391. Son fils Antoine est aussitôt nommé capitaine de la ville par le conseil, ce qui lui permettra de devenir viguier puis juge de paix en 1412. Marié en 1422 à Douce de Salavas, il sera bientôt propriétaire de plusieurs hôtels dans l'îlot au cœur de l'Écusson, entre les actuelles rues Littré, du Grand Couvent et de l'Horloge. Hôtel typique à tours d'escalier et coursives, apparemment luxueux et décoré, dont subsistent plusieurs éléments remaniés, fenêtres, frises sculptées. Une porte ogivale portant l'écusson familial s'ouvrait au numéro 8 de la rue du Grand Couvent, qui fut détruite par le percement de la rue Perrier.
Début 15e, pour se rapprocher de la garnison royale du château, le conseil de ville échange la maison carrée contre une maison au nord de l'actuelle place de l'Horloge, que l'on transforme en maison consulaire, avec en 1410 un beffroi en angle sur la rue des Épis, actuelle rue de l'Aspie. En échange d'accommodement avec le chapitre sur des taxes sur le vin, les consuls récupèrent alors une cloche de la cathédrale donnée jadis par la commune pour sonner les heures et que les chanoines ne voulaient plus entretenir. Celle-ci est placée en 1412 dans le beffroi avec un guetteur chargé tant pour le feu que pour le rabat des heures. Ainsi, l'heure laïque des ateliers s'affirme face aux heures des offices religieux.
Cependant, la majorité des Nîmois reste attachée aux pratiques de la religion traditionnelle issue du monde rural. Si les cas d'hérésie sont rares, des pratiques magiques d'exorcistes sont fréquentes. Par exemple, faire passer les poussins par la jambe droite d'un pantalon pour les protéger contre les pies. La religiosité romaine reste très, très prégnante. Les consuls paye le campanier de la cathédrale pour qu'il sonne les cloches au temps des récoltes afin de faire fuir le mauvais temps et que ne fasse mal aux fruits de la terre. Pèlerinage et culte marial se développent. Défilés carnavalesques se mêlent aux fêtes religieuses. Ainsi, les cérémonies de l'Ascension sont suivies d'un somptueux festin avec distribution d'une aumône de pain par les consuls. Ils reçoivent ensuite l'abbatia Meretricum Postulbilis Presenti Surbis Nemosi, la tenancière du bordel public qui leur offre personnellement une fougasse et après avoir embrassé le premier d'entre eux, en reçoit 5 sols. Cependant, pour lutter contre la syphilis, ce mal napolitain apparu dans la ville en 1495, les consuls mettront fin à l'existence du lupanar en 1532 et donc à la fougasse de l'Ascension.
La guerre franco-anglaise reprend en 1415, avec bientôt une alliance entre Londres et le jeune duc de Bourgogne, Jean sans peur. Partisan d'une économie libérale, il promet de supprimer les impôts à ceux qui se rallient à lui, ce que font les consuls de Nîmes en 1417. La garnison royale résiste en vain dans le château, plusieurs semaines au Bourguignon. Fin 1419, le dauphin Charles, dernier enfant de Charles VI, descend en Languedoc, reprend la ville et massacre les Bourguignons, qui à leur tour résistaient dans le château. De même, il abat une partie des remparts de la ville Félonne et supprime le consulat pendant 4 ans. Devenu roi de Bourges en 1422, il reprend la guerre en 1428, mais loin de Nîmes, hormis les routiers qui rôdent dans la région en 1428, 1430 et 1432.
Or, en 1428, mécontent de l'enseignement scolastique donné aux enfants de la bourgeoisie par le capitole du chapitre cathédral, les consuls font venir d'Arles et payent un maître en grammaire, partisan de la pédagogie des literati, humaniste italien ou autre, frère de la vie commune, de la devotio moderna, développée aux Pays-Bas. En 1433, deux maîtres, Johann Serre et Johann Rossel, seront installés dans la maison louée à Bartholomew de Troyes-les-Émines, mais après avis préalable du précenseur de la cathédrale.
Jacques Coeur, grand argentier du roi, choisit Montpellier en 1432 comme centre de ses activités commerciales en Méditerranée, après réaménagement du port de Latte. Il n'y reste que quelques années, mais s'y fait construire plusieurs hôtels particuliers de style Renaissance, dont l'un somptueux avec colonnes et escaliers à la française, devenu l'hôtel des trésoriers de France, ainsi qu'une grande loge de deux étages surmontée d'une terrasse face à l'église Notre-Dame-des-Tables pour accueillir ses affaires commerciales qui relancent l'économie du Languedoc, mais surtout au bénéfice de Pézenas et Montpellier.
Charles VII visite Nîmes, redevenu fidèle par deux fois, en février 1437 avec le dauphin Louis et janvier 1440. Puis après plusieurs tentatives, il ordonne la création d'un parlement pour le Languedoc, définitivement mis en place à Toulouse en 1443, afin de renforcer l'autorité royale et d'établir un système judiciaire sur ces terres où s'exerce le droit romain, la patria occitana ou Languedoc, du Rhône à l'Atlantique. Après le procès tragique de Jeanne d'Arc, le roi veut également s'affirmer face au pape comme le gardien des droits et des biens de l'Église de France par la pragmatique sanction de 1438. Si la vieille religion paraît encore vivace, les inquiétudes collectives provoquent une mutation moralisatrice des mentalités. Le recours croissant aux saints, aux cloches, aux reliques traduit la peur omniprésente de la mort dans ce siècle de guerre incessante, de déséquilibre socio-économique et d'épidémie. La peste revient en 1455.
Pourtant, Nîmes l'industriel se développe, même si en 1441, privés de leurs privilèges, beaucoup de Lombards quittent la ville. Le quartier Boucarier s'étend vers le sud, centré sur la rue des Épis, avec de nombreux commerçants, notamment des marchands d'épices. Vers 1450, on surélève le clocher nord de la cathédrale, dans le style nordiste, gothique, flamboyant. Suite à cette véritable crise morale, la devotio moderna infiltre les milieux intellectuels, des religieux surtout, mais aussi quelques nobles cultivés ou bourgeois acquis à l'humanisme du Quattrocento italien. Les difficultés économiques latentes renforcent la volonté d'organisation de cette élite dirigeante en accord avec les positions gallicanes royales. Éducation, organisation de l'assistance des indigents, malades ou des femmes chargées d'enfants, établissement de rôles pour la collecte des aumônes.
Soucieux en particulier d'un enseignement humaniste, les consuls nîmois installent en 1463 leur école, trop petite, dans l'hôpital de la Sainte-Croix, tout juste désaffecté dans le même quartier. Pierre de Podio en est le gérant en 1479, à la même époque à Florence, comme l'Ancien crée avec Marcificien son académie néoplatonicienne.
De son côté à Nîmes, Louis Raoul, un riche juriste originaire de Bernice, installé donc à Nîmes, se consacre à la défense des indigents, des veuves et des orphelins. Par testament, du 25 février 1459, il substitue ses biens aux pauvres qui auraient besoin d'un défenseur devant les tribunaux et nomme à cette fonction Jean Auban, bachelier en droit. Ses successeurs devront être élus par des officiers royaux et des avocats, soit de la cour royale ordinaire de Nîmes, soit de la sénéchaussée et alternativement par les consuls et les conseillers de la ville. Tous doivent prêter serment de choisir un homme capable. L'avocat ainsi élu prête lui le serment de bien remplir sa charge gratuitement, tant pour les Nîmois que pour les Bernissois nécessiteux. En échange, il est logé dans la maison léguée entre les rues Fresques et de l'Étoile. Cette maison de l'avocat des pauvres, ornée à la fois des armes du roi et de celles de la ville, comprend une bibliothèque humaniste fournie, ainsi qu'une amorce de collection de pièces antiques, selon la mode alors en usage, dans la bonne bourgeoisie nîmoise.
Louis Raoul ne meurt qu'en 1484, laissant une jolie fortune pour sa fondation, essentiellement laïque. Trois maisons intramuros, jardins dans un des faubourgs, vignes et olivettes. Cependant, il avait choisi sa sépulture dans l'église des prêcheurs, au devant de la chapelle du crucifix, ou en tel autre endroit que voudraient choisir les religieux, et ordonne que ses exécuteurs testamentaires fissent célébrer des messes, entre autres dans les couvents des quatre ordres mendiants de Sainte-Croix et de l'abbaye de Saint-Sauveur de la Fonte. Jean Auban étant déjà mort, Roland Capon lui a succédé. Cette institution typiquement nîmoise perdurera, avec divers accommodements, jusqu'au XXe siècle.
Et puis, en 1464, Louis XI confirme les privilèges de la ville de Beaucaire pour une foire franche de la Sainte-Madeleine, que toutes les personnes qui veulent y venir, d'où que ce soit, n'ont à payer aucun péage, redevance ou imposition. En 1481, Marseille est annexée au royaume avec la Provence, et Beaucaire devient une étape obligée entre la Méditerranée et Lyon, alors en pleine croissance. Les bateaux génois, marseillais ou catalans déchargent à Arles des marchandises acheminées par halage vers Lyon et Nîmes, bénéficient de cette proximité.
Mais vers cette période, Florence compte déjà 84 fabriques de soieries, employant 20 000 ouvriers. Elle exporte dans toute l'Europe draps de soie et brocarts à champs d'or et d'argent. Depuis 1423, la culture du mûrier est exempte d'impôts et en 1440, tout propriétaire de fonds doit en planter au moins 5. C'est ainsi l'époque où, dans un souci de propagande, les Médicis jouent les mécènes et favorisent l'épanouissement artistique de la ville qui se couvre d'œuvres d'art.